pour l'universel humain. Et reprenons le cas particulier de Moïse. Ça a été l'expérience de Moïse. Pourquoi s'appelle-t-il Moshe? Parce qu'il a été sauvé des eaux, Ken. Mais seul celui qui est capable d'être sauveur est sauvé. Et qui a été sauvé? Celui qui est capable d'être sauveur. Et le Midrash indique, normalement, il aurait dû être nommé Machouï. Mais Moshe, ça veut pas dire sauvé des eaux, mais sauveur, Moshe. Sinon, ce serait Machouï, sauvé. Mais avec son expérience, ça a été que il a pu recevoir la Torah parce que son être est un être de Torah, Galut Geoula. Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est cela ce que les nations ont perçu dans ce qu'ils appellent l'évangile en grec. Evangelion, Besoratova, la bonne nouvelle. C'est ça? Il y a une bonne nouvelle qu'on a entendue chez les juifs. On peut être sauvé. Mais c'est très exactement ça. Vous voyez l'importance de Pessah, du Seder de Pessah, Ken. Et alors on s'adresse en ouvrant la porte au monde entier, et que celui qui a faim vienne et mange. Personne ne vient. Vous remarquez ça, chaque fois que j'ouvre la porte.
Est-ce que c'est que certains existentialistes formulent ainsi, l'homme est libre et condamné à vivre?
Très, très bien, oui, c'est cela. Et alors ils perçoivent ça dans une tragédie. C'est-à-dire un philosophe, j'ai dit hier soir peut-être, un philosophe sérieux, est un homme angoissé, inquiet. Je veux dire, lorsque le philosophe est sérieux, il vit ce drame-là. Et je crois que parmi tous les philosophes, ceux qui l'ont vécu le plus profondément, c'est l'existentialiste. De façon
bien
meilleure.
Le dit comme une condamnation, on est condamné à refaire toujours le même.
Oui, comme disons comme une tragédie. C'est plus grave que ça. Je me rappelle une minute. Je ne sais pas. Encore une fois, j'y ai fait un peu allusion hier, je vais essayer de le décrire de cette manière. Vous savez, l'expérience du philosophe n'est pas une expérience instantanée, ponctuelle. Le philosophe vit son expérience tout le long de sa vie. Il y a une période de l'adolescence où ce vertige de l'orgueil, dans le sens positif que j'ai désigné tout à l'heure, de découvrir « je ne suis qu'un roseau, mais un roseau pensant », je crois que c'est Pascal. Ce vertige-là le mot me manque, mais vous comprenez, émerveillé, je pense, vous ne vous rendez pas compte, quand même. Alors masque la déception qui va s'annoncer dans l'expérience de la maturité du philosophe, lorsqu'il s'aperçoit que c'est lui qui répond à ces questions. Il y a là une déception théomique, on dit en hébreu, abyssale, lorsque subitement le philosophe, peu importe l'âge, mais à l'âge de sa maturité, lucidité, se rend compte, mais c'est moi qui parle. Alors, il y a une déception d'effondrement total. Alors, comme on a fonctionné dans la société, comme le porte-parole de la pensée, on continue à éditer des livres sur la philosophie, alors qu'on est déjà en deuil d'une espérance déçue. Et vous lisez ça chez les philosophes à la fin de leur vie. Une espèce d'amertume, de pessimisme. Je ne veux pas vous citer des philosophe contemporain, mais c'est tellement évident.
Pourquoi avez-vous parlé de l'adolescence? Parce qu'à ce moment-là, ces philosophes-là restent adolescents jusqu'à leur mort, même quand ils étaient
de la vie. Il y a des gens qui restent infantiles jusqu'à leur mort, mais c'est des cas particuliers.
L'adolescence, c'est dans leur cas le plus grand
défaut. Je ne sais pas, quand ils sont dans l'âge de l'adolescence, il y a le mot m'a encore échappé, il y a un vertige de jouissance, de la pensée se découvrant maîtresse de l'absolu. Qui masque ce qui, en fin de compte, va venir avec l'âge, avec la zikna. Vous rappelez hier, zaken zekana chokma. Et alors, on sent cela, regardez, relisez Sartre. À la fin de sa vie, bon, il y a du Benny Cohen là derrière, mais à la fin de sa vie, il dit, je me suis trompé toute ma vie. Et il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas dit comme ça, mais c'est pire. Non, c'est de ça qu'il parlait. C'est d'Afka de ça qu'il parlait. Et c'est très bien, il y a un aveu qui est honnête. Mais entre-temps, comme dit le verset, Rabim Halalim Ipila, combien de cadavres de conscience juive ont jalonné cette route? C'est ça que je voulais indiquer. Bien, au revoir.
Oui, mais
une minute.
L'éducation du philosophe auquel vous avez fait allusion me fait un peu penser au livre de Job. Vous avez enseigné justement, il y a l'angoisse de Job qui. Au moment où Dieu lui répond, a tendance à disparaître. Puisque, en fait, la question, il n'y avait pas de réponse de la part de Dieu. à partir du moment où Dieu lui répond du sein de la tempête, alors là, il se rend compte qu'effectivement, il y a eu une réponse qui est venue. Alors, je pensais, en écoutant ce que vous disiez au sujet du philosophe, qui n'entend que sa propre réponse, pratiquement, à cette situation dans le livre de Job.
Je crois qu'on peut l'imputer non pas tellement à Job lui-même, mais aux amis théologiens de Job. Voilà. Alors, c'est clair. Quand Dieu se révèle, Job ne comprend rien à ce que Dieu dit, parce qu'il dit, au fond, est-ce que tu es avec moi quand j'ai créé le monde? Est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Parce que Job semblait dire, ce qui m'arrive est blasphématoire, ça met en question la justice de Dieu. Et Dieu lui répond, au fond, mais est-ce que tu sais comment ça fonctionne, le monde que j'ai fait? Et Maïmonide, très finement, a dit, Job était pieux, mais il n'était pas sage. Il n'était pas haram, il n'avait rien compris. Et au fond, comme vous l'avez rappelé, ce qui a rassuré Job, c'est que Dieu lui parle, et peu importe ce qu'il a dit. Il y a un sens, yesh, ça, il y a. Est-ce que c'est clair? Mais Dieu, dans sa réponse, commence par dire aux théologiens, et vous bégayez, c'est Dieu qui s'adresse aux théologiens. Il leur dit, vous avez mal parlé de mon serviteur de Job, vous l'avez calomnié. C'est pourquoi je vous dis, c'est à imputer au discours des théologiens. Et j'ai indiqué cela hier à la conférence, peut-être pour certains c'était trop rapide. J'ai dû être trop rapide en disant que la pensée théologique, au fond, est un cas particulier de la pensée philosophique. Le théologien, c'est aussi, c'est encore une fois, un homme qui parle de Dieu, et non pas Dieu qui parle à l'homme. Un homme qui parle en un Dieu auquel il croit, okay, mais il n'arrive pas à convaincre l'autre qui n'y croit pas. Okay. Et au fond, je me demande si, je pèse mes mots, vous savez, j'ai appris des médecins, que les vocations, je prends le cas de la médecine, les vocations se réfèrent à quelque chose qu'on voudrait guérir. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Et alors, qu'en est-il des théologiens? Veulent-ils guérir une crainte d'athéisme refoulé? Probablement. Hein? Ils parlent tellement de Dieu que c'est que probablement, vous avez compris ce que je veux dire? Ils sont obsédés par peut-être qu'il n'existe pas, alors ils essayent de persuader les autres. Est-ce que c'est clair? Je parle des théologiens philosophes, bien entendu. Et j'ai une fois formulé ça comme ça. Vous savez que la théologie, ça s'écrit en deux mots. La théologie. Mais vous pouvez l'écrire en un seul avec une... La théologie. Oui, on va... Oui, la dernière question qu'on embraye. Hein. Oui.
La notion de vérité selon le christianisme et selon le judaïsme, nous le saurons à la fin, à la lumière de la création. Au fond, depuis une quinzaine d'années, je me suis aperçu que les chrétiens ne croyaient vraiment pas à la création et que c'est une preuve de l'ancrage inévitable dans la pensée juive du christianisme qu'ils aient conservé pieusement, du temps exactement, on ne sait pas, cette idée de la création, mais en réalité, tout passe par le Christ. Et la parole qu'on attribue à Jésus, je suis la voie, la vérité et la vie, relègue tout le reste, y compris la création, et donc la notion de vérité, dans un clair obscur.
Oui. Écoutez, vous avez absolument raison, vous avez dit l'essentiel. Je n'ai pas à revenir sur votre question. Il y avait l'essentiel de la réponse. Je crois simplement, vous me direz votre avis, c'est encore beaucoup plus accusé chez les protestants que chez les catholiques, ce que vous avez décrit là. Et. Le catholique reste encore assez judaïsant dans ce problème-là. Bien qu'il n'y comprenne plus rien, la création, c'est important. Donc, le protestant fait passer ça dans un discours philosophique. Au fond, tout se passe comme si on a dit ça au peuple pour faire passer la morale, mais qu'en réalité, bien sûr, allez demander aux évolutionnistes de quoi il s'agit. Bien, je vais vous demander 2 minutes et je reviens tout de suite. On en aurait donc. Enfin, 5 minutes, quoi. Donc, à cette hauteur, la deuxième colonne, juste après la citation, entre parenthèses, de la Gemara de Shabbat. Okay? Alors, ou bien Elouvin, c'est-à-dire dans le traité de Elouvin, page 55a, Etzel, à propos du verset, lorsque il y a l'exhortation à la Torah, et à la Teshuvah à la Torah, dans le Parasha de Nitzavim, dans le Deutéronome, il y a là un sujet pour lui-même, c'est que la vraie Teshuvah, c'est la Teshuvah à la Torah. Je le dis en parenthèse très furtive, il y a un problème qui est un fait de société dans la société juive, mais pas seulement dans la société juive, qu'on appellerait, si vous voulez, en gros, le retour aux sources, qui dans la société juive s'appelle les Baalei Tshuva. Nous avons projeté pour l'année prochaine un symposium important à Rachi sur cette question. Il sera probablement intitulé, ou le titre changera peut-être, une étude de la marginalité dans la société juive. Et j'aurais à indiquer dans une communication que je ne fais pas seul d'ailleurs, qu'il faut distinguer deux plans. Teshuvah, la date, et Teshuvah, la Torah. Est-ce que c'est clair déjà comme ça en hébreu? Et or, ces deux niveaux se mélangent, s'amalgament, et ça implique énormément de blocages dans la société juive actuelle, qui risque d'ailleurs d'être assez catastrophique dans ce phénomène de constitution de ghetto artificiel, qui risque de poser des problèmes sociologiques dans la cité française, pour parler de France, mais des problèmes beaucoup plus graves dans la société israélienne elle-même, à cause d'une confusion entre deux réalités spirituelles d'ordre très différentes, la teshuvah, la Torah, et la teshuvah au confessionnalisme, fut-il d'ailleurs orthodoxe, à ce qu'on appelle en français la religion. Alors là, c'est deux réalités différentes, mais qui s'entremêlent, ce qui rend le problème très, très important. On voit, on tira ce passage à l'époque, que l'exhortation à la teshuvah et l'exhortation à la Torah, c'est dans le même texte, dans ce texte qui est cité ici, que nous allons lire. Et je voulais ajouter une indication, mais enfin... oui, par rapport au problème de notre question de tout à l'heure, c'est vous, madame, qui avez posé la question sur la foi, okay? Pourquoi Israël a reçu la Torah? C'est que teshuvah la date, en général, c'est un retour à la situation caduque préhistorique du premier moment de l'exil. Alors que teshuvah la Torah, c'est un retour à la Géoula. Et je ne sais pas si vous percevez l'importance du sujet, mais nous le reverrons assez en détail. C'est pourquoi il y a cette apparence, j'en ai parlé hier soir, encore une fois, le mot est peut-être exagéré pour ceux qui n'ont pas entendu le contexte, de deuil dans la teshuvah la date, dans une apparence de joie dans la teshuvah la Torah, très différente. Ceux qui ont connu un peu la société israélienne distinguent ces deux sortes de personnages. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Pardon? Alors je vous donne rendez-vous au dévoilement de clarté de l'année prochaine dans ce séminaire, sinon ça nous prendrait trop de temps. Ken? J'ai dit deux fois, ça s'amalgame, ça se mélange. Okay. Je sais pas. La Torah en exil est en deuil, dans tous les cas. Et les chassidim le savent, puisqu'ils l'enseignent, et ils le vivent. Et bon, c'est un sujet pour lui-même. Mais tu as raison de dire... Rien n'est jamais tranché comme ça. Il y a toujours un crépuscule entre la lumière et l'obscurité. Mais et puis le crépuscule du matin n'est pas le même que celui du soir. Mais c'est ce que je viens de dire. Le crépuscule du matin n'est pas le même que celui du soir. Mais Kriyat Shema du soir, c'est pas celui du matin. Ayelet Hashachar, tout ça, c'est exact. Rien n'est jamais tranché comme ça, mais il y a une polarité indéniable, je pense. Et bon, c'est vraiment notre sujet. Alors, on embraye. C'est ça. Et dans le traité de Eilouvin, page 55a, à propos du verset « Loba shamayim hi », c'est-à-dire, vous pouvez atteindre la Torah, elle n'est pas dans le ciel. Ça se réfère à l'analyse de tout à l'heure. C'est inouï pour la pensée humaine que l'absolu est en communication. Eh bien, la Torah le dit. Elle prévient, elle va au-devant de cet étonnement d'impossibilité. Comment la Torah c'est clair, je ne reviens pas sur la définition. Quand la Torah dit, croyez pas que c'est difficile. Grâce à Moïse, c'est moi qui ajoute, grâce à la génération de la sortie d'Égypte, eh bien voilà, c'est disponible. Elle n'est pas dans le ciel. Et le verset ajoute, ni au-delà de la mer. Et de telle sorte que tu dises, qui monterait au ciel pour venir la chercher pour nous? Qui irait au-delà des mers pour venir la chercher pour nous? C'est moi qui ajoute, c'est déjà fait. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Alors, voilà ce que dit la Masoret Elouvin à propos de l'Oba Shamaimi. Vous avez encore une fois un exemple de drash. On a étudié hier. Okay. C'est parce que le verset veut dire. Le verset veut dire autre chose. Qu'est-ce que c'est que le ciel? Okay. Mais puisque le verset s'est exprimé comme ça, qu'est-ce que nous allons apprendre pour un problème qui est encore en perplexité? Voilà la suite. Et la Gemara explique « L'obe gassé rouach hi ». Qu'est-ce que ça veut dire « elle n'est pas au ciel » Ça veut dire « elle n'est pas chez les orgueilleux ». Et l'expression « ceux qui se prennent la tête dans le ciel », ceux qui se croient avoir la tête dans le ciel. Et l'expression est très précise. « Gassé rouach », ça veut dire « les gens grossiers okay ». Et je crois qu'il y a là une indication de phénoménologie caractérielle. L'orgueil, c'est très grossier. Et d'ailleurs, ça ne trompe personne. Tout à l'heure, j'avais indiqué que, ici, le problème, c'est celui de l'ego du médiateur. Okay. Alors, vous me permettrez un jeu de mots en français. Vous savez que je n'ai pas l'habitude. Okay. C'est ça, le jeu de mots, d'ailleurs. Que les Juifs ont deux ennemis. C'est l'égoïsme et l'égoïme. Et malheureusement, c'est vrai. Alors, lo begasse ruach hi, shehen le hatora, shayachut klal, le gas ruach. Et le Maharal insiste. Il n'y a à cette réalité qu'on appelle la Torah, vous voyez qu'il n'a pas dit ven la Torah, mais ven le hatora. C'est une expression qu'utilisent beaucoup les chassidim. Si vous lisez des commentaires de chassidout, vous verrez que cette manière grammaticale qui est inhabituelle dans la langue classique, de laisser l'article, au lieu de dire la Torah, l'Amed Torah, la Torah, les Ha Torah. Okay. Vous savez d'ailleurs que les chassidim se réclament du Maharal comme étant le fondateur, précurseur, disons, de la chassidoute. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les Mitnagdim aussi se réclament de lui comme étant le précurseur de la Shita lituanienne. Et j'avais dit une fois que c'est ça qu'on appelle en hébreu Yehudi Ham. Vous savez, un juif chaud. Vous connaissez cette expression Yehudi Ham? C'est Chassid et Mitnaged à la fois. Ham. Alors, je continue. Mal, elle insiste. Chehen le Hatora Shayachut Klal le Gasruach. Chehu Baal Mida Gashmit. Par définition, référez-vous aux premières phrases de l'introduction. La Gasut Ruach, cette grossièreté de l'orgueil, c'est le fondement en est l'identité matérielle, gashmit, de l'homme, corporel, charnel, okay, l'égoïsme. Okay. Et l'égoïsme devient néfaste par rapport à notre problème de relation à la vérité lorsqu'il s'exprime en égocentrisme. Et c'est aussi très frappant que les philosophes les plus opposés à l'idée d'une révélation de l'universel sont des égocentristes. Et je dirais, et non, la précision que je voulais ajouter m'échappe, mais elle me reviendra certainement. C'est important comme élucidation, une minute. Oui, je dirais que c'est une expression que j'avais employée déjà depuis très très longtemps déjà. Or, c'est qu'il y a un anonymat de la Torah, parce que la vraie Torah est anonyme, parce qu'elle est unanime. Ça, c'est le français nous permet de retenir cela. Okay. Et ce n'est que lorsque une des valeurs de la Torah n'est pas encore intégrée à l'échelle de la collectivité, qu'elle est nommée du nom de celui qui l'a enseignée, Amar Rabbi Ploni. Okay. Mais lorsque c'est intégré au niveau de la collectivité, ça devient Stam Torah. On ne cite plus de qui ça vient. Vous connaissez cela, okay. Stam Torah, mon cher Abenou, Stam Mishnah Rabbi Meir. C'est-à-dire, lorsqu'on ne cite pas l'auteur du Mishnah, on sait que c'est Rabbi Meir. Lorsqu'on ne cite pas l'odeur de Chidouche, on sait que ça vient de mon cher Rabbeinu. Est-ce que c'est clair? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas citer. C'est le problème de la citation. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je n'ai pas dit que j'en écrirai pas. Vous savez, quand le Maharal a commencé à écrire, à l'âge de 80 ans. Alors, souhaitez-moi. Je crois que là, il y a dans le Maharal l'a dit lui-même, c'est pas sérieux d'écrire avant de savoir ce qu'il y a à écrire. Et pour savoir ce qu'il y a à écrire, il faut d'abord savoir ce qu'il y a déjà écrit. Enfin, dans la Torah, bien sûr. Le reste, on n'a pas le temps. Vous savez, étant donné ce colossal phénomène de librairie juive, c'est insensé de prétendre, comment il s'appelait, Arias, j'ai tout vu, j'ai tout lu, les caractères de la Bruyère. Et ce que je voulais dire, c'est que... bon, ça m'échappe encore, mais peu importe. Là. Vous savez qu'il y a un verset dans Kohelet qui dit « Asot Sfarim Enketz » Faire des livres sans fin. « Asot Sfarim Enketz » Le Kohelet, l'Ecclésiaste, c'est l'appeler. Et alors, nous ne sommes pas un peuple de libraires. Okay, nous sommes un peuple de lecteurs. C'est différent. Et alors, là, j'ai une fois formulé ça comme ça. Reprenez les quatre mots en hébreu. « Asot Sfarim Enketz » À force de faire des livres, il n'y a plus de fin des temps. Il n'y a plus de fin d'exil. Okay. Faire des livres, ça repousse la fin. Okay. Pourquoi? Parce qu'il faut trop lire, il n'y en a pas le temps. Et peut-être que le Messie attend qu'on ait fini de lire. Et surtout, c'est qu'il faut en tenir compte. Une fois que c'est écrit, il faut en tenir compte. Ça complique la tradition, le nombre des livres. Ça, il faut s'en rappeler. Platon l'avait dit chez les philosophes. Mettre par écrit, c'est un signe d'infantilisme. C'est Platon qui parle. Okay. Ça veut dire qu'on est retombé en enfance. On a perdu la mémoire, alors il faut prendre des notes. Okay. Et est-ce que c'est clair ce que je dis là? Je vais raconter une petite anecdote de mon expérience de jeune professeur. Je n'ai pas dit il y a très longtemps, mais il y a très longtemps. Je faisais un cours. Et puis un des élèves, une des élèves, qui n'a pas su répondre à une question et qui me dit, mais comment vous voulez que je réponde sans notes alors que quand vous avez fait le cours, vous, le professeur, vous aviez des notes? Une route pas. Eh bien, elle avait raison. Depuis ce jour-là, j'ai plus fait de cours avec des notes. Vous avez remarqué. Et c'est vrai, si la Torah n'est pas dans la tête, ou si elle est dans des cahiers, c'est pas la Torah. Est-ce que c'est clair? Voilà, alors Platon l'avait déjà signalé, mais Kohelet le reprend à sa manière, c'est beaucoup plus grave que ça. Dans la tradition, on appelle les livres des lebouchim de la Torah, des revêtements de la Torah. Alors on a donné à cette Torah une telle garde-robe qu'il n'y a plus moyen de savoir ce qui est écrit dedans. Ça cache, ça cache, ça cache, ça cache. Et puis il faut en tenir compte, parce qu'une fois que c'est écrit. Et Rabbi Intel a dit que ça vous fonde une secte. Vous avez compris? Alors, une consigne. Soyons insectes. Stop. Alors je continue. Verei alazé est la preuve que la Torah n'a aucun lien. Veille le moral est très précis. Ça veut dire, ça ne ressemble même pas. Hein, avec cette grossièreté de l'orgueil, donc de l'égocentrisme. Verei alazé, la chône gassout. Le terme même qu'employait la Gemara pour dire, que ça veut dire, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas chez les gens grossiers, gasserouar, grossier d'esprit. Okay. Le terme de gassout, grossièreté, moré al about ve gassout, désigne une opacité, quelque chose d'épais. Vous comprenez l'idée, okay. Parler d'un esprit épais, il n'y a pas plus péjoratif que cela. Okay. Ve about, ve gassout, ve about, ou la geshem. Et c'est la définition de l'être de matière, geshem. Et par conséquent, l'esprit n'a rien à voir avec celui dont le caractère est celui de la matière, c'est-à-dire l'opacité. Il y a peut-être un mot en français plus précis, avec le temps, des mots m'échappent, pour désigner cela, ce caractère d'obstacle, d'épaisseur, qui empêche la communication de passer. Okay. Le Rambam Maïmonide, dans les Shmona Pratim, appelle ça des méritzot. Il dit, nos fautes font des écrans entre l'émission de la prophétie et notre esprit. Et plus on est, moins on est, j'inverserai, moins on est épuré moralement, et moins on est capable d'entendre ce qui se dit, c'est-à-dire de lire ce qui est écrit. Okay. Et je crois que j'avais signalé un des séminaires, c'est un chidouche qui me semble assez clair, à propos de ce verset, « Vecholaam roim et akolot » et tout le peuple voyait les voix, vous rappelez? Voyait les voix. Alors qu'est-ce que c'est voir une voix? Voir ce que normalement on devrait entendre, ça veut dire lire. Okay, voir, ce qu'il faudrait entendre. C'est clair ce que je dis ? Top. Alors j'enchaîne. Ve'od ageshem yeshlo rechakim ugbalim. Et puis quelque chose de plus grave. Ce qui est matériel a des limites. Il a des dimensions limitées. Le fini est fini parce qu'il est défini. Vezeu midat gasruah. Et c'est cela, la grossièreté de cette épaisseur que mène l'égocentrisme de l'orgueil. Sheu magbil atzmo. Ça le limite à un niveau de grandeur. Alors que la Torah, c'est l'infini. Et plus on est grand, et que ça, moins on est lié à l'infini. Il n'y a que celui qui se connaît le plus petit qui est lié à l'infini. C'est donc une explication très originale du Maharal de cette vertu de modestie par rapport à la relation à l'absolu. Qu'est-ce qui empêche l'accès à l'infini? C'est la grandeur. Parce que la grandeur, et que ça, c'est une limite dans ce qu'on appellerait l'ascension vers la vérité. Est-ce que c'est clair? Top. Alors on enchaîne. Chez Umagbil Atzmo Begadlut. Parce qu'il se limite dans sa grandeur, l'omar qui kar vekar gadolou. J'ajoute veloyoter. Il est grand jusque-là. Ah, c'est perdu. Un de mes maîtres, je crois, en culture générale, nous enseignait quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, beaucoup utilisé dans beaucoup de sujets. À 15 cm du rivage, on peut encore se noyer. Alors si on dit, mais je suis tout près, mais alors tu es loin, est-ce que c'est clair ce que je dis ? Voilà, c'est cela. Au fond, l'aspiration à la grandeur, c'est la catastrophe pour le Talmid Chacham, parce qu'il ne sera que grand, c'est-à-dire zéro, puisqu'il s'agit d'être lié à l'absolu. Et il n'y a que celui qui se connaît le plus petit, c'était Moïse, vous vous rappelez, Mi'atta et Tatsmecha, qui met entre parenthèses son équation personnelle, qui peut être liée à l'infini. Et c'est pourquoi il faut se méfier des grands livres, enfin des livres des grands, parce qu'ils ne sont que grands, alors que la Torah, c'est la vérité. Est-ce que c'est clair le.
C'est un rapprochement du principe d'amour, qui est en fait l'achèvement, mais dans un sens négatif.
Non, je. Attendez, je. Non, jamais qui a dit ça. Je à moi hein,
non, non.
Ah bon, vous me rassurez. Non, il y a une erreur là. Non, ça dit comme. Ah, ça, c'est autre chose, se prendre pour. Là. Oui, c'est autre chose. Bon, je vais dire. Je vous donne un exemple. Il y a dans la Maseret Ketuvot une phrase que j'ai souvent citée. C'est à la page 111b. De la Maseret Ketuvot et qui dit ceci: Enodomé alomed merabo velomed beno le benatzmo. C'est-à-dire, ne ressemble pas celui qui apprend de son maître à celui qui apprend de lui-même. Je crois que la formule est inversée, vérifiée dans la Maseret Ketuvot. Ne ressemble pas celui qui apprend de lui-même à celui qui apprend de son maître. Enodomé, ne ressemble pas. J'ai fait une fois une analyse logique de cela. En réalité, le texte aurait dû dire ça ressemble. Parce que, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas la même chose. Mais c'est ça que ça veut dire, ça ressemble. C'est que c'est pas la même chose. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est clair. Le sens, c'est que ça ressemble même pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Enodomé. Même ressembler, ça ressemble pas. C'est autre chose. Et alors, puisque vous êtes dans une génération privilégiée, puisque vous avez accès à l'hébreu comme véhicule de l'étude, je me souviens d'un temps où les hébraïsants, c'était vraiment les exilés chez les juifs. Et on nous regardait comme des uluberlus d'accorder une importance culturelle à cette langue trois fois morte et trépassée qu'on appelait l'hébreu. Okay. Et puis maintenant, vraiment, vous avez de la chance. Et alors, à condition que ce soit de l'hébreu. Et alors, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'ai failli dire du lashon hara, ça m'a échappé. De quoi je parlais juste avant? Non. Oui. J'ai oublié. C'est pas grave, mais vous avez compris l'idée. De la même manière, celui qui est grand, ça ressemble pas à ce qu'est l'objet de la recherche, c'est-à-dire l'atteinte de la vérité. On est. Voilà, je crois que je ferai une autre analyse. C'est. Et peut-être nous l'avons étudié une fois. C'est l'ambiguïté qu'il y a dans la proximité. Dans la proximité, il y a une ambiguïté très grave, c'est celle de l'approximation. Et il n'y a rien de pire que l'approximation. Et vous savez cela, qu'on est plus à l'aise avec l'autre croyant qu'avec le croyant approximatif. Est-ce que c'est clair ?